Bonjour à tous et merci d'accepter de participer à cet échange et partage dans Parole aux auditeurs, votre magazine info 100% interactif. La Direction Générale des Impôts, DGI, a imposé aux petits commerçants le paiement de 50 000 francs congolais d'impôt forfaitaire sur le bénéfice. L'échéance de paiement de cet impôt annuel court jusqu'au 31 juillet 2013 pour l'année en cours. Et cet impôt est exigé en une tranche selon les assujettis. Signalons que cette taxe instaurée par l'ordonnance loi numéro 79-021 du 2 août 1979 concerne notamment les vendeurs de pain, de légumes, de farine de manioc et de maïs, de poissons et autres épices pour la consommation domestique. Épargnés de la TVA, ces petits commerçants sont astreints donc à payer cette patente. Que pensez-vous de cette décision des autorités fiscales? Composez les 081-890-3315 pour votre intervention en direct. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Tite Poutou, Pierrot et la Mégie et Jean-Noël Mokondo réalisent cette émission. J.R. Lungebo vous la présente et coordonne sous la supervision de Nicole Gaka. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Pour votre gouvernement, la patente était définie comme étant une autorisation accordée par l'autorité administrative afin d'exercer une activité commerciale moyennant paiement d'une somme d'argent. Nous avons dans ces studios M. Jean-René J.R. Nkoy-Moussou, directeur urbain des impôts, ville de Kinshasa, pour échanger sur la question. Monsieur le directeur, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, qui est soumis au régime de l'impôt ou de la patente?
Merci beaucoup pour la question. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord donner la catégorisation des opérateurs économiques tels que gérés par la Direction générale des impôts. La fiscalité congolaise distingue trois catégories de contribuables. Nous avons d'abord ceux qui sont qualifiés de grandes entreprises, ce sont ceux qui réalisent des grandes affaires, qui ont un chiffre d'affaires au-delà de 2 milliards de francs congolais. Ça, c'est la première catégorie. Ces contribuables-là sont gérés par la direction de grandes entreprises. La deuxième catégorie est constituée de ce que nous appelons les entreprises de taille moyenne. Ce sont celles qui réalisent des chiffres d'affaires inférieurs à 2 milliards de francs congolais. Et ça, c'est le plafond. Le plancher, c'est 80 millions de francs congolais. Alors, la troisième catégorie comprend des contribuables qui réalisent des chiffres d'affaires inférieure à 80 millions de francs congolais. Et cette catégorie est qualifiée des entreprises de petite taille. Mais à ce niveau-là, il y a une distinction qui est faite entre ce que nous appelons les petites entreprises, c'est-à-dire celles qui ont les chiffres d'affaires se situant entre 80 millions de francs congolais et 10 millions de francs congolais. Là, nous avons affaire à de petites entreprises. Alors, ceux qui réalisent des chiffres d'affaires inférieurs à 10 millions de francs congolais, ceux-là sont qualifiés de micro-entreprises. Les entreprises de taille moyenne sont gérées par les CDI. Pour la ville de Kinshasa, nous avons les CDI Kinshasa, les centres des impôts de Kinshasa, situés sur l'avenue des commerces. Au niveau de l'intérieur, nous avons aussi des CDI dans certaines provinces, notamment la province du Katanga, la province de Bakongo, la province du Nord-Kivu. Et dans d'autres provinces où il n'y a pas de CDI, ce sont les sièges des directions provinciales des impôts qui gèrent les entreprises de taille moyenne. Alors, les entreprises de petite taille qui regroupent d'une part les petites entreprises et d'autre part les micros sont gérées par les centres d'impôts synthétiques. Au niveau de la ville de Kinshasa, nous avons les centres d'impôts synthétiques, ou en abrégé CIS, dans toutes les communes de la ville. Au niveau de l'intérieur aussi, vous avez des CIS. Ce sont ces structures-là qui gèrent les entreprises
de petite taille
et les micro-entreprises. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est par rapport
au petit commerce,
aux micro-entreprises. Voilà. Les micro-entreprises, comme j'ai dit tantôt, ce sont des contribuables qui réalisent des chiffres d'affaires inférieurs à 10 millions de francs congolais.
Même moins.
Inférieurs à 10 millions de francs congolais. Voilà, c'est ce que je dis.
Oui.
Et ils sont soumis à payer un impôt forfaitaire de 50 000 francs congolais. Donc c'est cette catégorie-là que nous avons ciblé par rapport à l'échéance qui tombe
le 31,
plus
demain.
Tard, le 31, donc demain.
Voilà. Alors, c'est vrai, vous nous avez brossé ceux qui sont soumis au régime de la patente. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'arsenal juridique que nous avons qui, au fait, régente le petit commerce en RDC?
Alors, le petit commerce est réglementé au niveau de notre pays par l'ordonnance loi numéro 90-040-046 du 8 août 1990. Cette ordonnance avait été modifiée par celle portant, cette ordonnance loi avait été modifiée par celle portant le numéro 13-009 du 23 février 2013. Du 23 février 2013.
Mmh.
Donc, si nous mettons en parallèle les deux ordonnances loi, la première, celle que j'ai citée tantôt, c'est-à-dire le 90-046, disposait dans son article 12, ce qui suit, les paiements de la taxe de la patente dispensent les commerçants patentés du règlement de tout impôt professionnel sur ses bénéfices, sous réserve qui justifie avoir rempli les conditions exigées par la loi au moment de la délivrance de la patente. Alors, l'ordonnance loi 13-009 du 23 février est venue juste pour essayer d'équilibrer les choses. Mmh. Parce que là, vous voyez que...
Parce qu'on a dit modifier et compléter.
Oui, oui. Mmh. Ceux qui étaient soumis à la patente, à l'époque, ne payaient que la patente. Il n'y avait pas un impôt à payer. Mmh. Mais alors, l'ordonnance 13...
Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, non seulement qu'on va payer la patente, mais il faut payer également cet impôt forfaitaire.
Exactement.
Et la patente revient à combien?
La patente...
Au jour d'aujourd'hui, la patente revient à combien?
La patente a plusieurs catégories. Il y a plusieurs catégories de patentes. Il y a des patentes de 20 000, de 30 et de 50 000. Hein. Mm-hmm. C'est fixé. Et ça, c'est l'hôtel des villes qui fixe.
Mais est-ce que vous avez tenu compte aujourd'hui, c'est vrai, en vérité, c'est pas un secret d'ailleurs, les chiffres d'affaires de tous ces patentés, les commerçants patentés, est de loin inférieur aux 50 000 francs congolais qu'exige aujourd'hui le gouvernement comme forfaitaire. Vous prenez par exemple une maman qui vend des cacahuètes au coin de rue, qui n'a comme capital que 2000 francs. Lui demander 50 000 francs.
Non, je crois qu'il y a une exagération de la part de ceux qui veulent bien exagérer les choses. Parce que si l'impôt que la DGI demande est surtout basé ou est surtout demander aux assujettis de la patente, aux commerçants que nous appelons patentés. La maman que vous venez de citer là, Est-ce que vous allez me dire que cette maman-là paie la patente? Si vous examinez, vous allez constater que cette maman-là paie juste un ticket de marché, que les quartiers, les bureaux des quartiers exigent. Elle est là, elle va se baigner. Ce ne sont vraiment pas ce genre de catégories-là qui nous concernent. Hein? Et là, je ne sais pas, vous avez...
Donc, ils ne sont pas concernés.
En principe, les tout petits, les agents des impôts qui font les recensements...
Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion. Quand on parle de petits commerçants, nous faisons directement allusion à tous ces vendeurs de pain, ces vendeurs de légumes, de farine, de maïs et de manioc, et aussi des poissons, hein, qui sont, au fait, et autres épices pour la consommation domestique. Alors, les gens ont toujours tendance à avoir le regard sur ces personnes-là. Mais quand vous parlez des patentés, vous faites, vous, plutôt allusion au commerce, aux commerçants, aux micro-commerçants.
Justement, nous visons les micro-commerçants. Évidemment, ceux que vous venez de citer là sont aussi micro, mais ils sont vraiment extrêmement micro. Hein. Nous ne visons pas ceux qui sont extrêmement micro, nous visons ceux qui ont quand même une petite structure. Ils ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de francs congolais. Nous voyons quand même qu'il y a une certaine structure. On peut les situer quelque part. Et ce sont ceux-là que l'administration fiscale
est en train de cerner. Mais comment savoir que ceux-là appartiennent à une catégorie réellement d'extrêmement micro ou micro tout simplement? Parce que nous savons que notre fiscalité, elle est déclarative. Alors quelqu'un qui ne déclare pas, comment les saurez-vous?
Non, vous avez une maman qui a sa petite assiette, il vend les cacahuètes, comme vous venez de citer. Visiblement, l'agent des impôts qui passe faire le recensement, il va constater qu'ici, la maman se débrouille. C'est vraiment extrêmement micro. Donc l'agent va constater que non, ici, il n'y a pas lieu que nous puissions fiscaliser un tel contribuable qui, deux jours après, va disparaître. Ou bien vous avez des jeunes gens
mais vous ne pensez pas que c'est vraiment de l'aléatoire?
Non, non, il n'y a pas d'aléatoire. Parce que là, vous cherchez à situer ou à situer les problèmes au niveau de ceux qui sont extrêmement petits. Il y en a qui font des chiffres d'affaires de 5 millions de francs congolais, de 9 millions de francs congolais, il y en a. Nous les situons. Et ceux-là ont commencé déjà à se présenter au bureau des impôts, ils payent leurs impôts sans problème.
Donc je prends par exemple, on prend le cas de dépositaires, c'est ceux qui sont par exemple, qui ont des dépôts de boissons, par exemple. Vous les situez dans quelle catégorie?
On ne peut pas situer quelqu'un par rapport au fait que vous le voyez, il est dépositaire. J'ai dit les critères ici, c'est les chiffres d'affaires. Donc les agents des impôts qui font les recensements sont appelés à évaluer les chiffres d'affaires. Lorsque vous avez un chiffre d'affaires au-delà des 10 millions de francs congolais, vous n'êtes pas micro en ce moment-là. Vous êtes petite entreprise. Et là, vous êtes soumis au régime des petites entreprises. Mais si on constate que le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions, vous avez 9 millions, vous avez 7 millions, 5 millions, on dit que vous êtes micro-entreprise. Donc, les critères ici, c'est les chiffres d'affaires.
Les chiffres d'affaires. 081-890-6315 ou encore le 081-890-4339 pour participer en direct.
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits fracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous avons Marcel qui est à Kisangani et Josias à Gemena. Merci d'accepter de participer à cette émission. Marcel, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour J.R., bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Voilà, on sait tout de même, comme l'a dit notre invité tout à l'heure, qui nous a brossé une idée sur les catégories des contribuables. Et pour le cas d'espèce, pour le cas du sujet que nous abordons aujourd'hui, nous parlons des micro-entreprises. Et là, il a insisté pour dire que ceux qui sont extrêmement micro ne sont pas concernés. Mais alors, la décision de payer 50 000 francs congolais comme impôt forfaitaire aux commerçants patentés, que cela vous inspire et comment vous réagissez?
Merci beaucoup, M. Gérard. Permettez-moi de remercier la Radio Okapi pour l'honneur ou l'opportunité qui me sont offerts à ce moment pour intervenir sur cette question aussi importante. Et la première des choses à souligner, bon, la mesure, elle est bonne, mais je voudrais aussi souligner que cette mesure, quand bien même elle est bonne, mais elle est vide de contenu. Et vous avez même constaté avec nous que notre invité, d'ailleurs, qui est aussi un agent de la fiscalité de notre pays, éprouve des difficultés même à catégoriser ou avoir des précisions sur des personnes auprès desquelles on peut percevoir cet impôt forfaitaire, tel que la direction générale des impôts venant de prendre une mesure frappant ces dons, comme il est dit, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions de francs congolais. Et pourquoi j'ai dit cela? C'est parce que il se pose un problème. Et les hommes d'affaires, ou ces dont les, en général, n'arrivent pas souvent, il n'y a pas une politique déclarative, transparente dans notre pays en matière d'affaires, pour que l'on se rende compte justement d'une liste de personnes qui font partie de grandes entreprises et faisant partie de petites entreprises et aussi faisant partie des moyennes entreprises ou des micro-entreprises, comme qu'il venait de dire. Et vous allez vous rendre compte que cette mesure va susciter seulement une tracasserie auprès des personnes qui ne seront même pas concernées, mais qui se verront inquiétées par les agents qui passeront pour leur demander le paiement, justement, mais en faisant des rapports autres, puisque auprès de quelqu'un qui a, par exemple, 100 000 francs congolais de chiffre d'affaires, et vous lui demandez de payer 50 000, l'autre il vous dira, mais finalement, je ne comprends rien, tout ça. Et l'agent va insister, voire l'intimider ou proposer même la fermeture de ses activités. Et ce paisible citoyen, pour s'en débarrasser, cherchera ne plus qu'à payer un peu, soit 10 000, soit 20 000, justement, pour que l'agent le quitte et le reste librement, vaquer à ses occupations, et ce qui entrera forcément dans leur poche et qui ne profitera à rien aux caisses de l'État ou au trésor public. Et voyez là déjà un danger auquel nous faisons face maintenant avec cette mesure. Donc, c'est pour dire justement que cette mesure, elle est bonne, mais elle est vite, rapide, elle est prise rapidement, puisqu'elle devait d'abord, au préalable, procéder au recensement des différentes catégories, et cela à tous les niveaux, déclarer ou solliciter la déclaration de toutes les personnes qui exercent des activités commerciales, et cela à tous les niveaux, et pour permettre aussi à ce que cette mesure, une fois elle aura été prise, où elle entrera en vigueur, qu'elle ne trouve pas de difficultés dans son fonctionnement, ou qu'elle ne perde pas de son efficacité, ou voire qu'elle ne souffre pas de sa décétude, puisqu'elle ne s'adaptera pas avec dans le contexte actuel aux réalités que nous vivons sur nos marchés respectifs. Voilà un peu le problème là. Et cette problématique, je pense, allait d'abord être prise en compte avant de prendre une telle mesure. Et ça allait être la bonne chose. Mais nous remarquons qu'elle est vite prise, mais elle va patauger, puisqu'en tout cas, l'environnement n'est pas perméable pour que cette mesure produise ses effets en faveur du trésor public.
Merci beaucoup, Marcel. Vous qualifiez cette décision d'être une décision précipitée, hein, parce que là, vous craignez également que cela ne puisse pas produire des effets escomptés, dans la mesure où, généralement, ça risquerait de prêter à confusion, surtout au niveau de petits commerçants, qui ne savent pas se situer pratiquement dans quelle catégorie des assujettis. Merci beaucoup, Marcel. Josias, vous êtes à Guémena. Bonjour, Josias.
Bonjour, JR.
Voilà, vous avez suivi Marcel qui, au fait, ne salue pas vraiment de deux mains cette décision, hein, qui trouve être une décision précipitée. Vous avez la parole, Josias.
Merci, JR. Et encore une fois sur la chaîne de la paix, la radio Capi, qui nous donne quand même l'opportunité de nous exprimer et de donner les avis. La décision prise par le ministère, elle est vraiment bonne, parce que vous savez, tout activiste doit payer l'impôt, ou encore les impôts qu'exige l'État, parce que cela se trouve dans la constitution de la République démocratique du Congo. Mais je suis en train de figer, qu'est-ce qui se passe avant que l'État congolais ou cette ordonnance-loi puisse être imposée à tout activiste. Selon moi ici, moi j'avais cet avis à ce que le gouvernement puisse d'abord soigner l'infrastructure. Voilà ce que moi j'insiste sur, l'infrastructure. Parce que vous savez ici, nos commerçants souffrent. Donc il n'y a pas moyen d'entrer dans des forêts ou bien faire transporter leur matière, tout ça. Vous voyez que la route n'est pas en bon état, même sur le fleuve, il n'y a pas de tronçons, donc le tout est en désordre. Il n'y a pas moyen qu'ils puissent faire des transits et tout ça. Et maintenant, l'État va les imposer avec un montant de 50 000 francs congolais. Est-ce que l'État elle-même a le bon sens de sa population? Parce qu'après tout, les commerçants vont maintenant descendre, maintenant imposer aussi n'importe quel prix, et c'est maintenant la population qui va souffrir. Serait mieux à ce que, avant que l'État puisse imposer ces 50 000-là à tout activiste avec les montants qu'ils ont donnés là-bas, soigner d'abord l'infrastructure routière. Que maintenant les différents tronçons puissent être vraiment soignés. On prend un véhicule ici, par exemple, pour nous ici arriver à Zongo, un commerçant avec ces marchandises va faire tout un mois au cours des routes. Bon, dites-le-moi, les dépenses qu'il a faites maintenant, est-ce que payer un 50 000, vous voyez que ça ne fait pas bien. Donc, l'État puisse d'abord soigner, les conditions de nos commerçants. Ce serait mieux que les commerçants soient à l'aise. S'il faut faire 100 km, ils le fassent dans un jour ou bien même une journée, serait mieux. Quand maintenant l'État va l'imposer de payer 50 000, serait mieux. Voilà, c'est
merci beaucoup,
par
Josias.
Rapport à ce qu'a exigé l'État congolais.
Oui, merci beaucoup, Josias. Vous allez appeler au bon sens de l'État congolais de prendre quand même soin, hein, au fait, de penser aux conditions dans lesquelles fonctionnent ou travaillent ou opèrent les certains commerçants qui aujourd'hui il exige 50 000 francs congolais comme impôt forfaitaire avant de prendre cette décision. Et là, vous avez insisté sur la réhabilitation de voies de communication pour permettre à ce que les commerçants puissent avoir certaines facilités d'évacuation de leurs produits pour faire de bons commerces et aussi avoir le moyen de sa politique pour finalement donc donner aussi à l'État donc contribuer comme l'État l'exige. Merci beaucoup, Josias. Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, Josias.
Vous avez la parole, Adrien.
Oui, JR, encore une fois de plus, nous sommes devant une décision non seulement impopulaire, mais inopportune. Parce que je me pose mille et une questions. En ce qui concerne la décision prise par les autorités fiscales, est-ce qu'il était vraiment opportun de prendre une telle décision à partir du moment où nous savons que la République démocratique du Congo va très mal? La population congolaise.
Oui, Adrien.
Oui.
Adrien, si, s'il vous plaît, est-ce que vous pensez, dans un pays quand même, je crois qu'un pays qui fonctionne normalement, l'impôt est nécessaire, il faut apprendre aux gens la culture fiscale, parce que les pays ne fonctionnent qu'avec les moyens que nous, la population, nous mettons à l'État. L'État, c'est pas seulement le gouvernement, l'État, c'est vous, c'est moi. Et
je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, n'imitons pas le pays, parce que nous voyons que les décisions des autorités fiscales, c'est pour imiter certains pays africains. Mais ces pays-là n'ont pas le même niveau de vie que nous. C'est cela que je vous dis. C'est vrai que le pays fonctionne avec les impôts. Mais est-ce qu'il est vraiment temps, lorsque nous avons traité que, lorsqu'on va plus loin, pour dire que même le vendeur de légumes, le vendeur de feuilles de manioc, quelqu'un qui n'a même pas un capital de 50 000 francs, lorsqu'on va dans ce sens-là. Encore une fois de plus, je dis, on est en train de pousser maintenant la population à une famine, parce que ça commence déjà à se décourager déjà. Les gens vont déposer, ils ne vont plus encore se débrouiller, parce que nous savons très bien que ceux-là qui travaillent, mais ils ne sont pas payés. Et c'est pour cela que tout le monde essaye un peu d'entrer, donc de se battre, ça est là pour retrouver un peu comment nourrir sa famille. Et troisièmement, Pierre, je me dis, là maintenant, est-ce qu'il ne faut pas qu'on puisse revoir encore le cours des droits? Parce que nous savons que la seule chose qui différencie un commerçant au petit commerçant, c'est ce que, donc un commerçant, lui, était soumis au régime d'impôt.
Oui.
Mais un petit commerçant, lui, est soumis au régime de patente. Lorsque maintenant, on commence à soumettre aussi au petit commerçant le régime d'impôt, est-ce qu'il ne faut pas qu'on puisse revoir encore les cours de droit? Et puis, j'aimerais terminer. Je me demande, Pierrot, et JR, je m'excuse vraiment. Est-ce que nos autorités fiscales, qu'est-ce qui leur a poussé pour prendre une telle décision si précoce? Est-ce qu'ils ne trouvent pas que c'est vraiment dangereux pour le fonctionnement de notre République?
Voilà, merci beaucoup Adrien d'avoir accepté de participer. Là, vous évoquez là les notions de droit fiscal. C'est vrai sur l'impôt et la patente, c'est vrai, tout le monde le sait, que déjà avec le décret du 6 mai 59 relatif à la détention du registre des commerces, avant toute activité commerciale, autre que les petits commerces, donc tout était déjà clairement défini. Et ce n'est qu'après, donc 20 ans plus tard, qu'en 79, que a été signée l'ordonnance loi numéro 79-021 portant réglementation du petit commerce. Et vous avez souligné, bien entendu, que l'impôt et la patente, au fait, ce sont les deux éléments qui différencient le petit commerce au grand. Merci beaucoup, Adrien. Notre invité pourrait nous éclairer également là-dessus. Nous prenons Dr Richard pour terminer cette première série des auditeurs. Dr Richard, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, J.E.
Voilà.
Bonjour.
Vous avez la parole,
à tous les auditeurs,
Richard.
À tous ceux qui vont participer aussi à l'émission. Et bonjour aux Congolais.
Vous avez la parole, Dr Richard.
Merci beaucoup. Je fais mienne les déclarations de mon prédécesseur qui s'inquiète sur l'avenir du Congolais et du commerçant congolais. Et puis, je dis pourquoi des mesures comme ça sans commencer par le préalable. Nous avons suivi ensemble M. Somoué, que je salue, un éminent économiste qui était même directeur de cabinet au ministère, je crois, du commerce ou de l'économie. Il avait dit, l'État a appauvri le Congolais. Un, par les arriérés des salaires des fonctionnaires qu'on n'a jamais payés. Il y a des gens qui ont 5, 10, 15 ans. Deux, par le non-paiement avec, comme on dit, honnêteté des factures des PME congolaises auprès de l'État. Il y a des PME qui ont touché le tiers, la moitié de leur dû. Comment on peut faire sortir une loi comme ça sans résoudre le préalable? La population congolaise est pauvre et paupérisée, comme on dit, consciemment par l'État. Alors maintenant, une loi comme ça vient encore tuer l'espoir de sortir de la pauvreté. Vous avez suivi avec nous lorsque les Congolais étaient fâchés contre les Indiens parce qu'en Inde, on a maltraité les jeunes Congolais. L'avenue du commerce était fermée, tous les magasins étaient fermés. Je crois, à travers toute la République, on a trouvé que ceux qui avaient fermé, c'était la majorité, c'était des étrangers. Surtout les Indiens, les Libanais, etc. Donc, l'économie du pays, les mains des étrangers, comment un pays peut prendre des mesures pour que l'économie de son pays reste entre les mains des étrangers? C'est ce que je dis. Ceux qui disent, Bate Kimboka, Ils ont raison.
Mais docteur Richard, comment voulez-vous que les étrangers qui exercent les commerces dans notre pays puissent être soumis au régime de l'impôt, mais tandis que les Congolais qui exercent autant, en fait, le même commerce, ne peuvent pas l'être, c'est quand même discriminatoire. Et je crois que c'est une façon de ne pas avoir le sens nationaliste du pays ou le patriotisme.
Oui, quand vous allez dans tous les pays du monde, il y a la discrimination prescriptrice des nationaux. Dans tous les pays. On ne veut pas citer ces pays là où on a mis le pied. On a été discriminé, on a dit, mais parce que tu es étranger. Vous savez que dans d'autres pays, quand vous arrivez au guichet d'un magasin, on vous demande le passeport parce que votre visage est le visage de l'étranger. Vos histoires que vous allez acheter seront indexées. On ne veut pas citer le pays pour ne pas créer des incidents diplomatiques. L'égalité discriminatoire existe. Il faut qu'on l'applique.
Voilà. Merci beaucoup, docteur Richard, d'avoir accepté de participer dans cette émission. Alors, avant de revenir à notre invité, on va prendre juste le tout dernier là, Gaston, qui est à Kinshasa, parce qu'on ne saura pas le garder longtemps, le plus longtemps possible à l'antenne. Gaston, merci d'être là. Bonjour.
Oui, merci à vous aussi. Oui.
Vous avez la parole après avoir suivi vos prédécesseurs.
J'allais préciser une chose. C'est que nous devons nous fixer sur une chose. Il y a de ces commerçants-là, c'est pas d'ailleurs tous les commerçants, il y a de ces commerçants-là qui sont soumis au régime de la TVA, mais les autres
ils sont épargnés,
qui ne respectent pas les conditions sont soumis, ils payent l'impôt sur les bénéfices. Mais nous, j'allais aussi dire une chose par rapport aux petits commerçants. Jadis, ils payaient la TVA, disons la patente, mais actuellement, c'est un impôt forfaitaire qui est fixé à ce montant-là, donc vous faites allusion. Mais il est vrai que tous ces petits commerçants-là partent acheter. Lorsqu'ils achètent, ils payent la TVA. Et puis, lorsqu'ils viennent, ils fixent leur prix par rapport au prix des revient, mais aussi en ajoutant la marge bénéficiaire qui est de 20% dans notre pays. C'est dans les 20%-là qu'on doit maintenant préparer. Les 20%-là, c'est leur bénéfice qu'on est censé prélever les 50 000-là pour payer à l'État. Je pense que c'est une démarche que notre État a adoptée ces derniers temps pour faire de l'argent. Mais il est vrai que le problème, c'est au niveau de fixation des prix. Est-ce que la marge bénéficiaire est respectée? Parce que quand vous dites 50, il y a des gens qui crient, disent 50, c'est beaucoup. Et maintenant, ils vont répercuter ça sur les prix qui, jusque-là, on ne sait pas constater un contrôle de la part de nos agents économiques et les opérateurs économiques hasardent à fixer n'importe comment les prix sous prétexte que il y a la liberté en matière de fixation des prix et c'est la population qui en souffre, la population qui n'a pas de revenus voulus et voilà. Moi je pense que l'État, lorsqu'en prenant de telles mesures, doit aussi suivre ça pour que la population ça ne puisse pas aller à l'encontre de la population. Parce que l'État cherche ses recettes, hein. Il va percevoir, parce que l'impôt c'est obligatoire, il va percevoir cet impôt-là, mais moi je veux bien que l'État puisse avoir un
voilà, Gaston,
la manière
Gaston,
dont la population est en train de fixer les prix.
Voilà, Gaston, oui, à propos d'ailleurs, nous vous informons que demain, Parole aux auditeurs va faire un grand débat, un échange et partage autour de cette question sur la structure des prix. Vous êtes sans ignorer que le rapport MENA la maison MENA venait déjà de publier son tout dernier rapport sur les prix de biens de grande consommation à travers le pays, sur la vérité des prix. Au fait, c'est qu'on nous présente comme prix, ce n'est pas ça la réalité. À titre d'exemple, les rapports parlent d'un carton de séchard qui coûte 21$ à l'importation. Les prix jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé depuis des années et des années. Mais sur le terrain, ces cartons est acheté à 90$. Alors c'est plus et c'est vraiment suicidaire. Nous allons faire un débat demain avec le ministre national de l'économie qui reviendra sur cet aspect des choses. Merci beaucoup, Gaston, d'avoir appelé 081-890-63-15 ou encore le 081-890-43-39.
Radio Capi, un partenariat entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien du gouvernement de la Belgique, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, merci à vous tous qui nous avez rejoints pour cette émission. Nous sommes là avec notre invité qui est dans ce studio, Jean-René Koyemoussou, Jean-René J.R. Vous avez suivi les uns les autres, les auditeurs qui ont aussi parlé avec leur cœur, et il y a d'autres qui ont fait parler au fait de cet arsenal juridique qui réglemente l'exercice de petit commerce en RDC. Alors, que répondez-vous aux uns et aux autres et comment orientez-vous leur contribution?
Merci beaucoup, monsieur. Les journalistes. Je voudrais d'abord corriger les noms parce que
c'est Jean-René.
Jean-René
Koyemoussou. Moussi, voilà. Moussi.
Okay, merci. Et je vais répondre à toutes les préoccupations que nous venons de recevoir des uns et des autres. Le premier intervenant a parlé du recensement. Il dit que il a d'abord dit que c'est une bonne mesure, mais pour lui, il trouve que il n'y a pas de transparence dans les déclarations, et puis le service n'a pas procédé au recensement, et il a chuté pour dire que l'environnement n'est pas favorable par rapport à cette mesure, et que c'est une décision précipitée, si j'ai bien résumé ses préoccupations. Je dois d'abord dire que le régime fiscal de notre pays, c'est un régime déclaratif qui demande aux contribuables de souscrire librement leurs déclarations. Mais le même système donne la latitude à l'administration fiscale de procéder à des contrôles pour se rassurer de la sincérité des déclarations.
Et dans bien des cas, ces contrôles sont très très complaisants. Dans bien des cas.
C'est vous qui le dites. Hein, c'est vous qui le dites. Ces contrôles-là permettent de catégoriser correctement des contribuables. D'abord, les déclarations souscrites permettent de catégoriser. Mais en deuxième lieu, lorsqu'il y a des contrôles, les contrôles permettent de corriger lorsqu'il y a des déclarations qui n'ont pas été sincères. Je dois ajouter par rapport à la loi actuelle, la loi que nous sommes en train d'examiner, le service avait bel et bien procédé à un recensement. Et le recensement a commencé il y a 3 mois à peu près. Et au fur et à mesure que le temps passe, les services au niveau de la ville, je parle de la ville parce que c'est ce service que je maîtrise, au niveau de la ville, les services disposent déjà des répertoires des contribuables des micro-entreprises. Donc, quand on fait un recensement, on procède à une évaluation du chiffre d'affaires. Cette évaluation du chiffre d'affaires permet à ce que l'on puisse situer un contribuable. Est-ce qu'il s'agit d'une grande entreprise, auquel cas cette entreprise-là doit être gérée par la direction des grandes entreprises? S'agit-il d'une entreprise de taille moyenne? Là, on va l'orienter vers les services des CDI. Ou il s'agit d'une petite entreprise à gérer par les CIS, ou bien il s'agit d'une micro-entreprise. Donc les critères ici, comme j'ai dit tantôt au début de l'émission, c'est les chiffres d'affaires. Donc les agents qui font les recensements procèdent à un contrôle et à une évaluation du chiffre d'affaires pour déterminer la catégorisation du contribuable concerné. Et l'environnement n'est pas favorable, il a dit cela. Et je dois dire, monsieur J.R., que tout changement est déstabilisant. Et les commets de mortels n'acceptent pas facilement les changements. C'est un changement qui est opéré et c'est difficile, peut-être que c'est le début, mais au fur et à mesure que les gens vont comprendre la portée de cette loi, et ce changement va être admis par les concernés, c'est-à-dire les commerçants, pas tenté. Le deuxième intervenant a salué aussi la mesure, mais il a plutôt parlé de l'infrastructure. Il dit que l'État veut avoir de moyens, mais il constate par ailleurs que l'État n'arrange pas l'infrastructure. Il voudrait que l'État, au préalable, puisse d'abord améliorer l'infrastructure. Vous allez constater avec moi que là, nous risquons de nous retrouver dans un cercle vicieux. L'État dit, j'ai besoin des moyens pour arranger l'infrastructure. Le commerçant dit, moi, avant que je ne paye, il faut d'abord arranger l'infrastructure.
Commencer à arranger avec ce que je vous avais d'abord donné avant. C'est, en fait, c'est ça ce que ça veut dire.
Mais il s'agit ici des commerçants qui n'ont jamais payé cet impôt-là.
Voilà.
Hein? Donc, nous voudrions qu'ils puissent participer à l'effort de l'État. Ici, il est question de participer à l'effort de reconstruction. La reconstruction du pays ne tombe pas comme du ciel. Hein, vous vous réveillez un matin, vous constatez que les routes sont arrangées, on peut rejoindre un coin à l'autre comme si c'était fait par
donc
une baguette.
Donc l'État-providence n'existe plus.
L'État-providence n'existe plus, comme vous dites. Donc il faut contribuer et petit à petit,
donner l'État
nous allons
moyen
constater
de sa
que les choses vont s'arranger. Donc il faut donner à l'État les moyens de sa politique. La ville de Kinshasa aujourd'hui n'est pas celle qu'elle était il y a 10 ans, il y a 15 ans. Nous constatons qu'il y a des améliorations et des changements. C'est parce qu'il y a des gens quelque part qui ont contribué et l'État a arrangé les routes, l'État a amélioré l'environnement.
Oui, rapidement, si on peut ramasser les autres auditeurs pour rejoindre une deuxième série des auditeurs qui attendent.
Monsieur Adrien de Kananga a parlé d'une décision impopulaire. Je crois que j'ai répondu
vous avez déjà
à la préoccupation.
À ça, oui.
Monsieur Richard a parlé de préalables. Il dit qu'il faut payer d'abord les salaires. Et il faut, d'après lui, faire une discrimination, qu'on puisse laisser les nationaux tranquilles et demander seulement aux étrangers. Je ne pense pas que ça soit juste, parce que les routes que l'État va arranger avec l'argent là, ce ne sont pas seulement les étrangers qui vont circuler sur ces routes là. Les nationaux aussi vont utiliser les mêmes infrastructures que l'État va améliorer avec les recettes qu'il va percevoir. Le dernier intervenant, M.
Gaston,
a parlé de
la TVA.
Il dit que voilà, quelque part là, les commerçants risquent de majorer les prix parce qu'il y a un impôt qui doit être payé. Bon, les contrôles des prix ne relèvent pas de la direction générale des impôts, il y a un ministère des
comptes. C'est pourquoi nous avons dit que demain, on fera une émission autour
voilà
de ça.
Voilà, exactement, d'abord, cette émission pour examiner cette préoccupation. Voilà.
Voilà, nous avons en ligne Guy André Tchikoji qui est à Kinshasa, Dr Nawej Akolouzi et Jonas Akananga. Guy André, vous êtes avec nous, bonjour. Allô?
Bonjour à l'invité.
Voilà, c'est Guy Chimanga. Bonjour.
Ça va?
C'est Guy Chimanga?
J'ai une intervention.
Oui, c'est Guy Chimanga?
Oui, c'est Guy André Chimanga Lutumba.
Voilà.
Je voudrais d'abord me présenter. Je suis le président d'un syndicat qui s'appelle RANECO, Rassemblement National pour l'Épanouissement des Entreprises Congolaises. Donc, je suis entré là de suivre cette émission avec vraiment un intérêt soutenu. J'ai suivi tous les intervenants, tous mes devanciers, je les ai suivis avec un intérêt soutenu. Et je voulais aussi apporter ma petite contribution parce que je me trouve en face d'un directeur de la DGI, puisque vous savez, à la DGI, il y a des gens qui sont suffisamment rodés. Peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais aussi avoir des nouvelles leçons de fiscalité. Alors, ma préoccupation, hier, je voudrais vous demander de m'aborder un peu plus que les problèmes qui nous concernent, nous les commerçants, et surtout nous qui parlons
au nom des
commerçants.
Oui, bon, exceptionnellement parce que vous faites partie d'accord, vous êtes le président du RANECO, on va vous accorder 3-4 minutes, hein. Ne débordez pas, s'il vous plaît.
Ok, je vous remercie d'avance. Je disais ceci, les problèmes pour moi se situent à des niveaux, sur le plan juridique et sur le plan techno-socio-économique. Sur le plan juridique, qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais d'abord partir de la démarche initiée par le législateur, par l'entremise même de la DGI. Le législateur n'a pas mal fait. Le législateur a pris l'ordonnance loi pour demander à ce que le patronté puisse actuellement, dorénavant, commencer à payer l'impôt appelé impôt sur le bénéfice annuel. Ce n'est pas mauvais puisque le pays, donc à travers le monde, tous les pays se construisent avec l'impôt. Ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà la raison pour laquelle, puisque les législateurs étaient aussi présents, on a d'abord commencé par abroger l'article 12 de l'ordonnance 002. toutes les ordonnances étaient prises le même jour. L'article 12, c'est celui-là qui dispensait un peu les commerçants, le petit commerçant, le patassé, au paiement de l'impôt sur le bénéfice.
Mm-hmm.
Mais, ici, je voudrais relever, sans perdre contre lui, la tricherie de la DGI. L'intervenant, le directeur qui est sur les plateaux, a évoqué le fait que l'échéance tombe demain le 31. C'est ce que moi je n'ai pas compris, c'est par quel miracle il peut soutenir cela, puisque devant moi ici j'ai l'ordonnance loi en question, je vois à l'article 16, on dit la présente ordonnance loi entre en vigueur dès sa publication dans les journaux officiels et s'applique à compter de l'exercice fiscal 2013. Ici, c'est une tricherie. On nous parle ici de l'exercice fiscal 2013. Je voulais éclairer l'ensemble de vos auditeurs, monsieur Gier. Lorsqu'on parle de l'exercice fiscal 2013, puisqu'un exercice fiscal, c'est avec l'exercice comptable.
Tout à fait.
On n'a pas parlé de l'exercice fiscal 2013-2012, parce que j'étais encore en discussion hier avec quelques agents de la DGI. Ce n'est pas l'exercice fiscal de 2012-2013, mais c'est l'exercice fiscal
2013-2014.
Je vous donne encore un petit exemple, c'est comme on a toujours tendance à parler de l'année scolaire. On parle de l'année scolaire 2009, par exemple 2010. Donc, il y a une période,
Oui,
cette période-là qui doit être prise en compte. Mais lorsqu'on peut nous dire encore que ce n'est pas les 31 même de ce mois, puisque d'ailleurs les problèmes ici ne concernent pas seulement les patentés ici. Il y a même ceux-là qui payaient à l'époque l'impôt synthétique libératoire. Ils ont aussi des problèmes. Mais nous, jusque-là, nous n'avons pas encore entamé cette démarche. Nous sommes en train de parler, puisque vous savez, les petits commerçants-là, ils n'ont pas qui parler pour leur compte. Voilà, deuxièmement, ce que je voudrais dire, la DGI fait trucher. C'est pourquoi nous avons pris des dispositions que, pour la journée de demain, nous n'avons pas voulu emboîter le pas de nos collègues syndicalistes. Nous nous disons, lorsque les agents oseront de passer sur les marchés, ça sera ce qu'on appelle bracasserie. Et nous allons directement saisir les procureurs de la justice,
voilà.
Les procureurs
de la République,
pour que nous soyons rétablis dans nos droits. Puisque la DGI,
voilà, vous posez un problème de fond.
Vraiment mettre en
voilà.
Compte.
Monsieur Guy-André Chimanga, vous posez un problème de fond lié à l'échéance, parce que nous l'avons dit à l'échéancier, qu'on a accordé à tous ces patentés. Selon vous, il s'agit là d'une tricherie parce que le 31 juillet pour l'exercice 2013, l'exercice 2013 a commencé au fait au mois de mars, hein, parce que c'est l'année fiscale qui commence, jusque mars 2014. Donc je crois que ce n'est pas en ce moment qu'on devait payer. Selon vous, nous allons voir ça avec notre invité. Merci Guy-André Chimanga
d'avoir été. S'il vous plaît, monsieur Gilles.
Oui, en conclusion, parce qu'on est déjà là, c'est quand il nous reste 10 minutes pour que nous accordions aussi la parole à d'autres personnes. En conclusion, si vous pouvez citer Guy-André.
Aborder tout ce que j'ai.
Alors, oui, allez-y rapidement.
J'ai dit ceci, c'est très important. C'est une tricherie notoire, comme vous l'avez dit là. Alors, en fiscalité.
Non, comme vous l'avez dit, moi je ne l'ai pas dit.
Justice fiscale.
Merci beaucoup.
Excusez-moi, abonnez-moi.
Merci beaucoup, Guy-André Chimanga. On ne peut pas aller très loin, en tout cas plus loin avec vous. Vous avez dit déjà l'essentiel. Docteur Nawej est à Kolwezi. Docteur Nawej, bonjour.
Je voudrais intervenir, non pas. Pour utiliser des termes tels que tricherie et tout ça. Nous, les Congolais, nous sommes habitués toujours à accuser les autres de toutes les choses. Mais si vous regardez très bien notre pays, avant l'indépendance, tout le monde payait l'impôt. Il suffisait d'avoir 20 ans, tout le monde payait ce qu'on appelait le palata. C'est avec ça que le gouvernement faisait des actions pour reconstruire le pays. Mais à un certain moment, il suffit seulement de l'être au Congo. Vous croyez, vous n'avez que de droits, pas aucun devoir. Et ça, c'est mauvais. Quand vous regardez Kinshasa, par exemple, le gouvernement fait un effort des trous qu'il y avait à Kinshasa, des routes qui étaient petites. Maintenant, on a des avenues larges et ça fait plaisir. Mais avec quoi on le fait? Le gouvernement va faire ça avec quoi? pour la population de Colusie. Ils sont un peu fâchés parce que c'est la population de Colusie qui va payer tous ces travaux qu'on est en train de faire à travers tous les pays. C'est-à-dire qu'il y a des accords aux Sino-Congolais, les Chinois sont ici, ils vont creuser le minerai pour compenser. Mais la population de Colusie ne jouit pas de tous ces avantages. Mais quand on attend, par exemple, au niveau de Kinshasa, les femmes, on demande à une femme où une avenue qui est abîmée. Qui abîme les avenues? C'est la population qui jette tout dans les canalisations et les avenues sont abîmées à cause de l'eau qui ne sait pas où aller. Et qui fait tout ça? C'est la population. Mais quand vous entendez les syndicalistes et tout ça accuser les autres de tricherie et tout ça, c'est quand même... on doit apprendre, vous qui êtes de la presse, vous devez aussi apprendre à éduquer la population, de ne pas utiliser de gros mots, de ne pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. C'est comme ça que nous avons des guerres à l'Est et tout ça, à cause des gens qui ne veulent pas comprendre que être Congolais, c'est avoir des devoirs, d'accord, mais avoir aussi des droits. Nous devons aussi avoir des droits vis-à-vis de notre pays.
Tout à fait. Merci beaucoup, Dr Naouej. Nous allons terminer cette deuxième série avec Jonas qui est à Kadanga. Jonas, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour monsieur le journaliste. C'est Jonas de Kananga, étudiant à la faculté des sciences économiques de l'université de Kananga, finaliste de PMSX.
Voilà, vous avez la parole, Jonas.
Oui, merci beaucoup pour cette opportunité. Je pense que nos régimes financières doivent avoir une certaine politique. Pourquoi j'ai dit ça? Je me rappelle en 2012, avec l'avènement des TVA. Les gens disaient non, c'était fini et l'État pouvait avoir le maximum de moyens pour peut-être relancer l'économie du pays. Chose grave, les choses n'avancent pas. En économie, nous disons l'impôt c'est un accélérateur. Mais on dit aussi trop d'impôts tue l'impôt. C'est pour seulement dire que avant de prendre une décision, il faut peut-être étudier tous les paramètres pour possibles. Parce que il y a des risques. En prélevant ce qu'ils veulent prendre là, vous voyez, il y aura hausse des prix. Parce que ce qu'on va prélever là, celui qui va payer directement, c'est le consommateur final. Ce ne sont pas les commerçants. C'est ça ma contribution, merci.
Merci beaucoup, Jonas. Monsieur J.R., vous êtes avec nous, hein, J.R. Nkoy et Moussi. On va conclure ensemble avec vous. Donc nous avons pratiquement 5 minutes pour répondre aux préoccupations des uns et des autres et puis conclure.
Merci beaucoup.
Et si on veut commencer par l'auditeur tout à l'heure, qui était un syndicaliste, qui parlait d'ailleurs au nom du Rassemblement National des commerçants, donc pour l'épanouissement des commerçants du Congo, qui parlait en fait d'une année fiscale. Si vous pouvez peut-être expliquer à l'interne des auditeurs, comment fonctionne, comment s'étend une année fiscale.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais répondre, comme vous avez dit, à la première préoccupation. Je voudrais apaiser notre frère monsieur Guy André de Colosi, président du syndicat Renaco. Je voudrais dire qu'il n'y a pas de tricherie. La DGI ne peut pas tricher. La DGI, c'est une institution de l'État, une institution appelée à appliquer les lois et appliquer les lois correctement. Je vois qu'il y a plutôt une confusion ou peut-être un manque de compréhension
ou d'information de la part
de M. Guy. M. Guy est en train de confondre l'exercice fiscal de l'exercice comptable. Quand on dit exercice fiscal, cela correspond à l'exercice comptable de l'année précédente. Nous sommes en 2013. Lorsqu'on dit exercice fiscal 2013, cela correspond à l'exercice comptable 2012. Dans les jargons fiscaux, nous disons exercice fiscal 2013, revenu 2012. Donc quand on dit exercice fiscal 2013, il faut directement voir les revenus correspondants. Il s'agit des revenus de l'année 2012. Donc c'est comme ça qu'il faut lire les textes de loi. Pas seulement ces textes ici, tous les textes de loi. Lorsqu'on vous parle d'un exercice fiscal, l'exercice comptable correspondant, c'est l'année précédente, l'exercice qui a pris les noms. Le deuxième intervenant, Nawesh, je crois que là, il n'y a pas à répliquer. Il a plutôt salué l'initiative. Il est d'avis que tout le monde doit contribuer au paiement des impôts et qu'en tant que citoyen, on n'a pas que des droits, mais on a aussi des devoirs. On doit payer l'impôt parce que l'État utilise ces moyens-là pour la reconstruction du pays. Monsieur Jonas est revenu sur la problématique des prix. Il a parlé de la hausse des prix. Je voudrais
donc ça risque d'avoir un effet
sur la spéculation sur les prix. Je ne pense pas vraiment. Je crois que c'est juste l'effet des nouveautés, des nouveautés qui fait que l'on puisse spéculer dans tous les sens. Il s'agit ici d'un impôt sur les bénéfices. Les autres catégories des contribuables payent déjà cet impôt-là. Les grandes entreprises, les entreprises de taille moyenne, les petites entreprises qui, jadis ou hier, étaient PME de la deuxième catégorie, ils payaient déjà cet impôt-là. Et aujourd'hui, ce sont ceux qui étaient seulement patentés, c'est-à-dire payaient la patente pour exercer les commerces. Et cette patente-là, à l'époque, les dispensait du paiement de l'impôt sur les bénéfices. Mais aujourd'hui, l'État a décidé qu'en sus de l'autorisation d'exercer les commerces, ces commerces-là doivent aussi payer l'impôt sur les bénéfices. Ils doivent les payer au même titre que les autres opérateurs économiques. Donc, c'est comme cela qu'il faut comprendre les choses. Et cela n'a rien à voir avec un élément qui peut influencer le prix des ventes des biens et services sur le marché.
Merci beaucoup, M. Jean-René, J.R. Koï, Moussi, directeur urbain des impôts, ville de Kinshasa, d'avoir accepté notre invitation. Et à très bientôt, peut-être, pour un autre sujet.
Merci beaucoup, M. J.R.
Allô ? Allô ? Allô ? Mais, ils ne répondent pas ?
Voilà, nous disons également merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Donc, on prend rendez-vous avec vous demain sur le rapport MENA Finance qui vient de publier vendredi dernier les résultats des enquêtes sur la vérité et des prix. Donc, prenez déjà rendez-vous avec nous pour cette émission. Donc, on se retrouve demain à 10h. Voilà, à très bientôt.